91.2 sur les ondes. La barge russe sur Jet FM, plutôt crever que de le louper. Bec. Qu'est-ce qui t'arrive? J'essaie de comprendre et je n'y arrive pas. Oh, pardonne-moi, mec, je m'explique mal. J'attends juste que quelqu'un comprenne. Il arrive avec sa canne, chaussures d'Indien et casquette en jean. Jamais en retard, toujours en avance. Mais qu'est-ce qu'il fout? Eh ben, il vient pour t'attendre.
Bergerus 1199, donc 1199, un homme libre. Donc là, je vais vraiment me reposer à partir d'un livre de cours de Jankélévitch, Vladimir Jankélévitch, paru aux éditions Frémaux et Associés, qui s'appelle Un homme libre. Donc il y a trois cours, Un homme libre, l'immédiat et la tentation. Je m'appuie beaucoup, surtout de la première partie, Un homme libre. Et donc, j'y vais.
Les actes libres sont rares, même de la part de ceux qui ont le plus coutume de s'observer eux-mêmes et de raisonner sur ce qu'ils font. Le matin, quand sonne l'heure où j'ai coutume de me lever, je pourrais recevoir cette impression « xun olete psuke » avec l'âme tout entière, selon l'expression de Platon. Je pourrais lui permettre de se fondre dans la masse confuse des impressions qui m'occupent. Peut-être alors ne me déterminerait-elle point à agir. Mais le plus souvent, cette impression, au lieu d'ébranler ma conscience entière, comme une pierre qui tombe dans l'eau d'un bassin, se borne à remuer une idée, pour ainsi dire, solidifiée à la surface. L'idée de me lever et de vaquer à mes occupations habituelles. Cette impression et cette idée ont fini par se lier l'une à l'autre. Aussi, l'acte suit-il l'impression sans que ma personnalité s'y intéresse. Je suis ici un automate conscient et je le suis parce que j'ai tout avantage de l'être. On verrait que la plupart de nos actions journalières s'accomplissent ainsi et que grâce à la solidification dans notre mémoire de certaines sensations, de certains sentiments, de certaines idées, les impressions du dehors provoquent de notre part des mouvements qui, conscients et même intelligents, ressemblent par bien des côtés à des actes réflexes. C'est à ces actions très nombreuses, mais insignifiantes pour la plupart, que la théorie associationniste s'applique. Elle constitue, réunit, le substrat de notre activité libre et joue vis-à-vis de cette activité le même rôle que nos fonctions organiques par rapport à l'ensemble de notre vie consciente. Nous accorderons d'ailleurs au déterminisme que nous abdiquons souvent notre liberté dans des circonstances plus graves et que par inertie ou mollesse, nous laissons ce même processus local s'accomplir alors que notre personnalité tout entière devrait, pour ainsi dire, vibrer. Quand nos amis les plus sûrs s'accordent à nous conseiller un acte important, les sentiments qu'ils expriment avec tant d'insistance viennent se poser à la surface de notre moi et s'y solidifier à la manière des idées dont nous parlions tout à l'heure. Petit à petit, ils formeront une croûte épaisse qui recouvrira nos sentiments personnels, nous croirons agir librement, et c'est seulement en y réfléchissant plus tard que nous reconnaîtrons notre erreur. Mais aussi, au moment où l'acte va s'accomplir, il n'est pas rare qu'une révolte se produise. C'est le moi d'en bas qui remonte à la surface. C'est la croûte extérieure qui éclate, cédant à une irrésistible poussée. Il s'opérait donc dans les profondeurs de ce moi et au-dessous de ces arguments très raisonnablement juxtaposés, un bouillonnement et par là même une tension croissante de sentiments et d'idées, non point inconscients sans doute, mais auxquels nous ne voulions pas prendre garde. En y réfléchissant bien, en recueillant avec soin nos souvenirs, nous verrons que nous avons formé nous-mêmes ces idées, nous-mêmes vécu ces sentiments, mais que par une inexplicable répugnance à vouloir, nous les avions repoussés dans les profondeurs obscures de notre être chaque fois qu'ils émergeaient à la surface. Et c'est pourquoi nous cherchons en vain à expliquer notre brusque changement de résolution par les circonstances apparentes qui le précédèrent. Nous voulons savoir en vertu de quelles raisons nous nous sommes décidés. Et nous trouvons que nous nous sommes décidés sans raison, peut-être même contre toute raison. Mais c'est là précisément, dans certains cas, la meilleure des raisons. Car l'action accomplie n'exprime plus alors telle idée superficielle, presque extérieure à nous, distincte et facile à exprimer. Elle répond à l'ensemble de nos sentiments, de nos pensées et de nos aspirations les plus intimes, à cette conception particulière de la vie qui est l'équivalent de toute notre expérience passée. Bref, à notre idée personnelle du bonheur et de l'honneur. Aussi a-t-on eu tort, pour prouver que l'homme est capable de choisir sans motif, d'aller chercher des exemples dans les circonstances ordinaires et même indifférentes de la vie. On montrerait sans peine que ces actions insignifiantes sont liées à quelques motifs déterminants. C'est dans les circonstances solennelles, lorsqu'il s'agit de l'opinion que nous donnerons de nous aux autres et surtout à nous-mêmes, que nous choisissons, en dépit de ce qu'on est convenu d'appeler un motif. Et cette absence de toute raison tangible est d'autant plus frappante que nous sommes plus profondément libres. Bref, nous sommes libres quand nos actes émanent de notre personnalité entière, quand ils l'expriment, quand ils ont avec elle cette indéfinissable ressemblance qu'on trouve parfois entre l'œuvre et l'artiste. En vain, on allégra que nous cédons alors à l'influence toute puissante de notre caractère. Notre caractère, c'est encore nous. Et parce qu'on ne sait plus à scinder la personne en deux parties pour considérer tour à tour, par un effort d'abstraction, le moi qui sent ou pense et le moi qui agit, il y aurait quelque puérilité à conclure que l'un des deux moi pèse sur l'autre. Le même reproche s'adressera à ceux qui demandent si nous sommes libres de modifier notre caractère. Certes, notre caractère se modifie insensiblement tous les jours, et notre liberté en souffrirait si ces acquisitions nouvelles venaient se greffer sur notre moi, et non pas se fondre en lui. Mais dès que cette fusion aura lieu, on devra dire que le changement survenu dans notre caractère est bien un autre, que nous nous le sommes approprié. En un mot, si l'on convient d'appeler libre tout acte qui émane du moi et du moi seulement, l'acte qui porte la marque de notre personne est véritablement libre, car notre moi seul en revendiquera la paternité.
Donc voilà, pour commencer cette émission, on a pu écouter « Essai sur les données immédiates de la conscience » de Bergson, qui était lu par... ils en parlent en intro, justement, de ce disque, de plusieurs CD. Dans l'intro, note de Patrick Frémaux du livre « Un homme libre » aux éditions Frémaux et Associés. Et donc là, c'est lu par Jean Villard et Jean-Louis Barrault, et puis Pierre Lamy, de 1971. Et donc j'avais cet enregistrement qui traînait dans ma... In my discothèque, you know, baby. Donc je l'ai ressorti. Et là, vraiment, Bergson dit, un peu ce qu'on disait hier hein, dans les barges russes, que le conditionnement par l'expérience sans motif du passé, comme convaincu, n'a pas de valeur, bah disons que moi j'aborde vachement ça par rapport au modernisme. Il parle beaucoup de la philosophie de Bergson, on va voir ça. Il était, disons que faire comme l'autre, c'est easy, you know, c'est facile. Mais l'expérience ne se fonde pas, enfin, ça va rester de l'apparence. John Kelevich en parle aussi de ça. Et donc, l'expression libre, l'expression, nos expressions, et ça c'est ce que je dis souvent dans les barges russes, hein, si vous écoutez quotidiennement ou très, très régulièrement, l'expression libre est au fond de notre âme. Notre moi, qui n'est pas modifiable, au caractère vierge, est au fond de nous. Et c'est ça dont débat John Kelevich, dont parle Bergson, et tant d'autres philosophes. Même peut-être toute la, même la philosophie, si on reprend John Kelevich à la fin de son livre, quand il parle de l'immédiat, ou alors à la fin de Un homme libre, je ne sais plus. On va voir. Donc, en fait, ce qui l'intéresse, comme il dit, tout au début, John Kelevich, c'est, ce sont les extrêmes. C'est pas la normalité, comme on voit vraiment aujourd'hui. Ou peut-être que ça a été toujours comme ça. Donc, vois, moi, je vis dans le présent. Donc, je vois des personnes qui sont... bah, qui n'ont pas grand-chose, quoi. Ça reste assez plat. Ils sont dans une liberté qui va être conditionnée. Or, les extrêmes, c'est à conditionner. C'est pour sortir de ça. Et ça, c'est quand... je sais plus qui disait ça, mais quand l'homme... C'est peut-être Rousseau... Non, je sais plus qui disait. Il disait... l'homme s'est rendu compte qu'il était un homme au 19e siècle. Donc c'est à partir de là qu'on a réfléchi sur nous-mêmes. Mais avant, il n'y avait pas tout ça. Même, bah, il en parle, John Kelevich, plus ou moins directement. Bergson, un philosophe d'avant-garde, le chapitre 5. Je voudrais convaincre la jeunesse que le bergsonisme est une philosophie d'avant-garde. Donc, et que Bergson est, malgré les apparences, encore aujourd'hui un philosophe d'avant-garde. Par exemple, la vie se sert d'un instrument qui est aussi pour elle un obstacle. D'un instrument qui peut devenir un obstacle. L'organe est pour la fonction et même pour l'élan vital en général. Pas seulement un instrument, mais dans certains cas, peut-être un empêchement. Et il est ce qui empêche la vie d'atteindre son but. Il y a donc une contradiction entre ce qu'on peut appeler l'organe et l'obstacle, puisque c'est la même matière qui est pour la vie, et l'un et l'autre. Dans cette contradiction de l'instrument et de l'empêchement, de l'instrument et de l'impédiment, si l'on peut s'exprimer ainsi, il y a peut-être, si on y tenait absolument, quelque chose de tragique, un commencement de tragédie. Mais en réalité, cette contradiction aboutit à quelque chose de positif. Elle aboutit à une structure viable. Donc il reste, John Kelevich, très très positif. Et la vie se sert d'un instrument qui est la philosophie, bien sûr. Elle est un transfert de l'être tout entier dans un autre être, la philosophie. C'est l'être tout entier qui se transporte dans une autre forme, la réflexion. Par exemple, notamment. Mais la philosophie, quand elle accomplit sa véritable vocation, est une profonde réforme intérieure, est un renouvellement radical. Donc c'est le fait de se poser des questions, tout simplement. Enfin, pas que. Et c'est pas se poser des questions, comme j'ai déjà dit, quelle paire de chaussures je vais mettre ce matin. Hein ? Bah non. Non, c'est ni pourquoi, mais comment. Ça, c'est commencer à être des questions un peu plus ambiguës, complexes, dans la possibilité, quoi, tu vois. Et c'est ça qui est important. À mes yeux, again, je le dirai jamais assez dans mes émissions, mais c'est moi que ça regarde, tout ça. Hein. Je partage cette quête que je suis. Vous savez, quand on demande aux gens pourquoi ils ont fait quelque chose, on invente toujours une histoire possible qui, au fond, n'est pas tellement véridique. Et là, c'est vraiment cool. En fait, j'ai lu ça et j'y pensais beaucoup. Enfin, j'y pensais beaucoup. J'y ai pensé deux, trois fois avant, quoi. Que les gens, ils s'inventent des trucs, quoi. Quand, et là, j'ai eu la réponse avec Jean Kadevich, on verra ça plus tard, tout à l'heure. Ben, quand tu leur dis quelque chose, tu leur demandes et ils vont être menés dans la négation et ils vont te trouver une excuse. Ah oui, ils vont... Voilà, ben, par exemple, on est au marché et quelqu'un va demander « Tiens, ben, est-ce que vous... » une caricature, hein, je vais vous donner. On est chez un primeur et la personne va demander « Oui, est-ce que vous avez du bœuf ?» Et non, mais moi je vends des légumes, madame, et des fruits. Ah bah non, mais je sais pas, juste avant j'avais vu quelqu'un qui ressortait de chez vous avec une tête de bœuf sous la main, dans le bras. Ah tu vois, les gens ils sont un... Bon, les gens, je parle en général, bien sûr. Et donc, on cherche des excuses. Et on va voir ça tout à l'heure, j'ai compris avec John Kadevich pourquoi. Vous savez, quand on demande aux gens pourquoi ils ont fait quelque chose, on invente toujours une histoire possible qui, au fond, n'est pas tellement véridique. Bah oui, bah j'ai vu quelqu'un qui ressortait, alors je me suis dit, bah oui, il doit vendre des têtes de bœuf ici. Bon, c'est pas très malin. Et après, là, j'ai regardé un film avec Pierre Ninet et Charlotte Gainsbourg sur Romain Gary. Et alors là, genre, en lisant encore John Kadevich, je me suis dit, et puis même, bon, j'ai bien vu le truc, quoi. C'est un auteur. Et chaque auteur, bah, il balance la vérité, enfin, il exagère, quoi. Donc tu dis, putain, je me dis, waouh, il a une vie fantastique, le mec. Mais en fait, non, c'est un auteur. Donc tous ces trucs qu'il raconte, bon, après, en plus, là, c'est un film. Le livre, je ne l'ai pas lu. J'ai jamais lu Romain Gary. Je vais peut-être m'y mettre, mais ça reste des auteurs. En plus, je sais qu'il écrit très, très bien. C'est même de la poésie, des fois, qu'il écrit. C'est de la prose, quoi. Ah, encore plus, quoi. Tu te dis, bah, oui, il a une vie certainement incroyable. Mais bon, dans ses livres, tu te permets ce que tu veux dans les livres. Dans les films, tout ça, tu fais ce que tu veux. Hein. Bon, voilà. Je voulais le dire, bah, je le dis. Hein. Et là, il y a un truc qui dit John Kadevich qui est vachement fort, c'est « Celui qui a l'amour a tout, au fond. » Et par contre, ça, dans le film, avec Pierre Ninet et Gainsbourg, eh ben, c'est bien compris. Sa mère lui donne un amour fou et après lui il utilise cet amour, mais je sais pas s'il le donne en fait, Romain Gary, ce qui va peut-être le mener à son suicide. Et qu'après, sans cet amour que sa mère lui donnait à profusion, il était plus rien, quoi. Il avait jamais pensé à être amoureux, peut-être. C'est à vraiment à réfléchir tout ça, hein. Par conséquent, celui qui est vraiment à l'amour de son prochain est sincère, est courageux, le moment venu, est généreux. Enfin, il a tout et même l'humilité. Il ne pense pas à lui, il ne pense qu'aux autres. Donc ça, dans le film aussi, c'est peut-être sa vie aussi, hein, parce que moi, je vous dis, t'exagères quand t'écris, quand tu fais des films, mais au fond, la personne est peut-être comme ça aussi, est sûrement, parce que bon, pour avoir la vie qu'il a eue et écrire comme il écrivait, sûrement que oui. Celui qui a une vertu les a toutes, est-il écrit. Et là, après, il dit, j'ai annoté la vertu du mal. On peut dire que le mal, c'est dans la disjonction des vertus. C'est d'avoir une vertu sans les autres. Le mal, c'est d'être courageux sans être sincère. Sincère sans être juste, etc. C'est ça, c'est le mal. C'est la dissociation des valeurs. Une valeur dissociée des autres devient méchante, devient mauvaise. Les faux culs, un peu ça. Enfin, c'est un peu ça. Ils ont peut-être aucune valeur, ces gens-là. C'est des personnes faux culs n'ont peut-être aucune de ces valeurs. Mais c'est le mal quand ta sagesse, t'as pas de sagesse en fait. Ça, tu vois, il est vraiment bien son cours à John Kadevich. Le mal ne sent pas le soufre. Le mal n'a pas de cornes. Le mal n'existe nulle part. Le mal, il est dans nos cœurs. Et il est d'abord à l'intérieur même de la vertu, dans celui qui se croit vertueux. Ouais. Alors. Impossible par Dennis Brown. Okay. Donc là, on va beaucoup plus loin dans les chapitres. C'est comprendre, c'est suivre le même chemin que le créateur a fait. De même que pour un interprète qui interprète de la musique, la jouer, c'est la refaire. L'acte par lequel l'interprète joue une musique dont il n'est pourtant pas l'auteur, est un acte qui ressemble à l'acte initial, primaire, par lequel le créateur l'a faite. En cela, on peut dire que la compréhension, l'interprétation en général, est une espèce de poésie, dans la mesure où la poésie, c'est l'art de faire. Un art de faire selon lequel la poésie, la poétique elle-même, est un faire, et l'acte même de créer et de recréer la chose. D'où là, il y a toute l'interprétation d'un morceau de musique. Moi, je l'ai déjà dit une fois ou deux à la radio, quand j'avais pas 20 ans, il y a un mec qui m'emmène chez lui, il me dit « Ah, regarde ma guitare, je sais jouer Jimi Hendrix », et le mec, il reprend Jimi Hendrix, mais en lisant une des partitions, quoi. Ah bon, ouais, à l'époque, la musique, j'écoutais pas de musique. Je dis « Ouais, bah bien, ouais, ouais. » Et aujourd'hui, je pense, mais ce mec-là, je sais pas ce qu'il est devenu, mais à quoi ça... Enfin, tu vois... Moi, et après, par contre, je me suis dit, je réfléchissais à ça, et je me disais, mais Jimi Hendrix, faut mieux vivre comme Jimi Hendrix, pour composer comme Jimi Hendrix, plutôt que de faire ce que Jimi Hendrix a déjà fait. Et là, c'est un peu, d'une certaine manière, ce que Jankelevitch aussi raconte. C'est dans cela que l'expression même, selon Bergson, est la traduction directe des choses. Non pas une transposition médiate, une transposition à travers les intermédiaires, comme dans l'idéalisme, mais la reproduction telle qu'elle de la réalité. C'est pourquoi la connaissance véritable, la connaissance intuitive, chez Bergson, est véritablement un acte et un acte immédiat par lequel nous nous identifions à la chose. Donc là, c'est Jankelevitch qui fait un cours sur l'homme libre et il parle Bradson, you know, baby, it's okay. Et là, là j'ai annoté, par exemple, vivre comme Rimbaud, parce que bon, ou comme Gary, selon le film. Mais là, c'est un autre truc, parce que c'est un film qui s'est emparé de sa vie. Donc, vivre comme Arthur Rimbaud, par exemple, bah, t'écris des poésies jusqu'à 16 ans, après, tu vis une aventure, tu vas jusqu'à Londres, et puis après, tu t'en vas en Éthiopie, enfin, grosso modo, disons. Donc, vivre comme Rimbaud est une manière de percevoir les choses. Tu peux vivre, tu peux faire ça. Bon, libre à toi. Mais bref, si tu vis dans les aventures comme ça, tu seras emporté et tu vivras ta vie. Mais bon, bref. Tu peux aussi vivre comme un autre, en faisant pareil qu'un autre. Mais si tu t'arrêtes là, tu te diras, bon, la destination de ton voyage... elle sera ridicule, quoi. Ton voyage, bah, tu vivras des choses sur le moment, mais c'est la destination qui est importante. C'est le pourquoi, le comment t'en es venu à faire ça qui est important. Et en revanche, je me dis, donc tu peux vivre comme Rimbaud, vivre comme un autre, mais se dépasser. Se dépasser, par contre, là, on voit autre chose. D'ailleurs, Dunkelevich, donc toujours par rapport à Bergson, dans son livre Les deux sources de la morale et de la religion, le héros et le saint agissent sur ce qui les entoure, non point par leurs théories, non point par les livres qu'ils écrivent, non point par les conférences qu'ils font, par les leçons qu'ils donnent, mais ils agissent sur leur entourage, sur leur exemple et leur vie, de leur présence, et même de leur personne. Donc ça, c'est ce que je viens de vous raconter. En fait, c'est... des héros, Rimbaud, sa vie, ouais, c'est vrai qu'elle me semble géniale, moi, mais, ou Gary, le film que j'ai vu, là, mais, c'est des interprétations qu'on se fait de leur vie. Je discutais avec mon père, et il me disait, mais les gens, de toute façon, parce qu'il a plus de 80 balais, hein, non, il a quoi, un peu plus, et les gens, ils se montent des mythes, à eux tout seuls, les gens, ils se font toute une montagne, en fait, d'un petit détail, ça c'est très noble, c'est bien, mais ils se font tout un film, quoi, vraiment, c'est le cas de le dire aujourd'hui, quoi, ils se font tout un truc, en fait, un truc qui valait rien, pour eux. C'est sur des boniments, des mensonges, quoi, c'est pas bon, c'est pas chouette, ça. Et donc là, je me dis, par rapport aux souvenirs, tu changes, en fait, tu changes tes sous... tes souvenirs, tu les mets en vérité, que tu gonfles de beauté pas possible, et ça fait penser au morceau qui a pas forcément à voir au niveau des paroles, mais Your memories from what the hell was I thinking, mais à quoi est-ce que je pensais pour penser à ce souvenir, que ce souvenir qui n'est pas vraiment réel, par Hazel Atkins de Fatboy, pas Fatboy, Fat Possum, un label fantastique, vraiment je l'aime plus que tout.
Your memories that come to see me, 'cause they love me. Your memories, they still loving me. Why did you go away? Not come back to me. Your memories are still loving me. You know, honey. Love you.
Your memory, they still love it.
Un héros ne fait pas des conférences sur l'héroïsme, mais un héros vit. Et voilà, et là, ça, je l'ai compris. Enfin, je l'ai compris vraiment avec Rimbaud, notamment. Je disais, ah ouais, tu vois, je me disais, oh, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Je disais, allez, je vais monter. Qu'est-ce que ferait Rimbaud, quoi? Et ben, je savais pas. Et puis, ce que je peux faire, c'est je prends ma bagnole et je vais jusqu'à Charleville-Mézières sur la tombe de Rimbaud. En fait, je vais pas le faire. Mais je lui dis, mais ouais, ça, c'est l'aventure, tu vois. C'est aussi, et il est pour ceux qui l'entourent cet exemple et cette leçon. C'est la vie elle-même qui est la leçon. Et ceci sans l'intermédiaire des théories et sans l'intermédiaire livresque des idéologies. Et c'est aussi un peu, tu sais, le truc des films. Les films, bah, par exemple, quand t'es petit, tu vois Indiana Jones, bah, tu veux être archéologue. Mais le mec, c'est des rôles qu'il joue. Il te donne envie, donc c'est pour ça qu'il est très très fort, réalisation, acteur, machin. Mais ces mecs, ils font des conférences. Tu vois, les acteurs, c'est pas des vrais. C'est pas un archéologue, Harrison Ford. Tu vois ? C'est là que. C'est sur ce point, maintenant, vu que la télé est omniprésente, tout le monde la regarde. Et tout le monde est. Ben, on sait plus qu'on peut faire tout ça, quoi. On n'a même plus envie. On préfère regarder la télé plutôt que de prendre sa bagnole et aller à Charleville-Mézières, quoi. On veut plus s'emmerder. C'est dingue, hein. Et c'est triste. Ouais. C'est donc la personne elle-même qui est la leçon. Qu'est-ce que c'est beau. D'abord, elle nous implante dans la durée, elle nous enracine dans le temps. Le temps n'est plus un lieu d'exil, n'est plus une détente de l'éternité, n'est plus par conséquent le principe d'une vie fantomale, d'une vie spectrale, dans laquelle l'homme n'est que l'ombre de lui-même. Mais au contraire, le temps étant la positivité elle-même, celui qui vit dans le temps, qui se meut dans lui, qui respire dans le temps, mène la vie la plus positive que l'on puisse concevoir. Celui qui vit dans le temps. Qui se meut dans lui, qui évolue. Il pensait que la philosophie. Alors, Bergson pensait que la philosophie dit oui et non, point non. Et que la charge de la preuve incombe toujours à celui qui nie, car c'est le oui qui va de soi. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est celui qui dit non qui doit prouver ce qu'il avance. Comme la personne au marché qui dit « Ah, oh, j'aurais une tête de bœuf à un primeur. » « Ah ben non, mais parce que j'ai vu quelqu'un qui s'en allait avec une tête de bœuf de votre étal. » Bah ouais, alors que si elle avait demandé bah ouais, une tête de bœuf... Enfin, elle aurait pas... Si elle avait réfléchi avant, elle aurait pas demandé une tête de bœuf. Mais... Bah ouais, ou c'est comme je vous disais, on peut plus maintenant dire oui. Ou non, on peut plus dire non. On est obligé de dire oui. Mais c'est autre chose. C'est un autre truc. Par exemple, c'est pour cette raison que l'immortalité de l'âme est plus probable que le contraire, que le néant. Celui qui pose le néant et qui dit que la mort est la fin de tout doit prouver ce qu'il avance, car la négation ne va pas de soi. Et au contraire, il va de soi que l'être continue d'être. Il va donc de soi que, sauf une preuve du contraire, qui n'est pas encore acquise, l'âme est immortelle. Et pour terminer, on va aller dans son cours sur l'immédiat à Vladimir Jankélévitch et au chapitre 17 directement, devenir ce que l'on est. Pour être, disions-nous, il n'y a qu'à être. Et cela est bien plus facile encore que vivre, respirer, dormir et que sais-je encore, attendre. Quels que soient les mots que je choisis, ils sont tous plus déterminés qu'être. Ce n'est pas l'être qui est difficile, mais ce sont les manières d'être, les modes de l'être. Mais jamais l'être, le tout court. C'est-à-dire l'essé, Elenae. C'est en latin et en grec. Par exemple, cette difficulté devient concrète quand il s'agit de devenir soi-même, malgré l'opinion publique, malgré la société menaçante, malgré ce qu'en dira-t-on, malgré l'estime de Pierre et de Paul qu'on risque de perdre quand on veut être soi-même. Alors la difficulté de devenir soi-même prend un sens concret, et même parfois très violent, quand il faut se brouiller avec sa famille, se brouiller avec tous ses amis, perdre sa place dans la société, risquer d'être mal vu dans les salons, etc. Là, la marge entre l'idéal et le réel devient très grande. Donc, être soi-même. On peut, c'est possible. Là, je pense qu'il n'a pas tout dit, quoi, Jankélévitch. On peut être soi-même partout. Mais pour, il faut y aller progressivement dans ces lieux publics dans lesquels il parle. La famille, moi, tu grandis avec, des amis. Non, c'est avec des amis, par exemple, aussi. Il faut que tu y vas petit à petit, tu montres ta véritable personnalité. Et puis, appelez ou appelez pas. Et donc là aussi, on pourrait reparler de la méchanceté qu'on a parlé. Tu vois si le mec, il a toutes les valeurs qui sont toutes positives ou s'il en a une négative et là, toute la sagesse s'écroule. Donc vraiment, super livre, Un homme libre, édition Frémaux et Associés, des cours de Vladimir Jankélévitch. Ouais, excellent, vraiment...
C'est jet ou c'est rien. À quelle heure? Quand?